Avec moi dans le studio, Gabriel, Sydney, Maël, Nora Benoît, Noah et Ariane, Icar, Intissar, Chérine et Alexane. Ils sont au lycée Marcel Gimond. Ils vous proposent tout de suite une revue de presse en direct.
La revue de presse.
Et on démarre cette revue de presse avec l'actualité internationale. En Russie, la réélection de Poutine. Un article épluché par Gabriel.
Selon Le Monde, le président russe de 71 ans, Vladimir Poutine, a été réélu ce dimanche 17 mars au soir, pour un nouveau mandat de 6 ans. Élu avec 87,32% des suffrages sur une participation à 74,22%, écrasant son record de 76% datant de 2018. À moins d'un accident, M. Poutine aura dépassé à l'issue de ce mandat en 2030 le record de longévité au Kremlin de Joseph Staline. Le chef de l'État s'est depuis longtemps convaincu que son peuple le suivrait jusqu'au bout grâce à une grosse propagande, à savoir avoir réussi à transformer l'invasion de l'Ukraine en une agression occidentale et une guerre de conquête en un combat pour les valeurs traditionnelles et la souveraineté de la Russie.
On enchaîne avec Sydney et le conflit à Gaza.
À Gaza, le premier ministre israélien s'enferme dans le tout militaire. Alors que Tsahal a de nouveau attaqué lundi l'hôpital Al-Shifa situé dans le nord de l'enclave, le premier ministre israélien envisage toujours une offensive sur Rafah, malgré une situation humanitaire proche de l'effondrement. D'après le journal Libération, après plus de 5 mois de guerre, la bande de Gaza est un cimetière à ciel ouvert. L'offensive israélienne dans l'enclave assiégée a déjà tué plus de 31 700 personnes, dont une majorité de civils. Un bilan qui devrait s'alourdir. Un Gazaoui sur deux est en situation alimentaire catastrophique, en raison de bombardements et de restrictions imposées par l'État hébreu sur l'acheminement de l'aide humanitaire. À ce jour, 27 décès dus à la famine et à la déshydratation, dont 23 enfants, ont été signalés. La famine devrait se généraliser en mai. Il n'y a pas d'excuse, a indiqué lundi Sam Duerden, chef d'équipe de l'International Rescue Committee pour les territoires palestiniens occupés. Dans la nuit du dimanche à lundi, l'hôpital Al-Shifa, plus grand centre hospitalier de la bande de Gaza et un des seuls opérationnels du nord du territoire, a une nouvelle fois été attaqué par l'armée israélienne. Les troupes du Tsahal ont justifié cette opération par la présence de terroristes haut gradés du mouvement islamiste. La situation est d'autant plus alarmante que l'espoir d'une trêve durant le mois sacré du Ramadan. Le premier ministre israélien a de nouveau défendu la solution militaire. Aucune pression internationale ne nous empêchera d'atteindre nos objectifs. Éliminer le Hamas, libérer nos otages et s'assurer que Gaza ne sera plus une menace pour l'Israël. Il ajoute « Nous nous battrons jusqu'à la victoire totale. Nous agirons à Rafah. » En effet, cette offensive est redoutée par la communauté internationale car 1,5 million de Palestiniens y vivent. Le gouvernement israélien est sous la pression croissante, notamment des USA. Les États-Unis ne peuvent pas soutenir une opération à Rafah qui ne comporte pas un plan applicable, vérifiable, réalisable, tenant compte des personnes qui tentent de retrouver refuge à Rafah.
L'eau manque sur tout le bassin méditerranéen, une situation critique décrite dans le journal Le Monde. Noah.
Dans l'extrême sud de la France, comme dans tout l'ouest du bassin méditerranéen, la sécheresse s'est installée. 22 mois déficitaires en précipitation depuis début 2022. Les Pyrénées-Orientales connaissent une sécheresse historique en durée et en intensité, la plus sévère depuis nos premiers enregistrements qui datent de 1959, résume Simon Mittelberger, climatologue à Météo France. C'est un phénomène subi par toute l'Europe. Le Maroc affronte la sixième année sans précipitation ou presque. Le niveau de remplissage moyen des barrages y atteint difficilement 23%. Et la Catalogne est confrontée à sa pire sécheresse depuis un siècle, selon le président du gouvernement régional, Pere Aragonès. La situation actuelle ne relève pas d'un épisode exceptionnel lié aux températures records, mais d'un phénomène durable. Les scientifiques du Centre commun de recherche de la Commission européenne évoquent même un état d'alerte pour tout l'ouest du bassin méditerranéen et frappé de plein fouet par cette vague de « En effet, le bassin méditerranéen est un des endroits de la planète parmi les plus affectés par l'évolution du climat. Le bassin fermé a tendance à stocker la chaleur de l'eau, ce qui contribue à maintenir un anticyclone stationnaire. En outre, La baisse du débit des fleuves dans les deltas laisse remonter le sel dans les terres. Toutes les productions qui alimentent les marchés européens ont besoin d'eau. Le bassin méditerranéen est considéré comme un des points chauds de biodiversité dans le monde. Une zone abritant une grande richesse d'espèces, mais soumise à de grandes pressions d'origine humaine. La faune et la flore y sont marquées par un fort taux d'endémisme. Les biologistes redoutent l'impact de la sécheresse sur ces espèces et pour les productions agricoles. Article écrit par Martine Valot dans le journal Le Monde, ce mardi 19 mars 2024.
Et le journal développe un cas concret, nous emmène en Sicile. Ariane.
L'agriculture sicilienne est mise en danger par les conditions climatiques. Elle représente 7,7% du PIB et rapporte 6,3 millions d'après les données officielles de la région. En effet, ce mois de janvier s'inscrit dans un cinquième mois de déficit hydraulique consécutif, écrit Le Monde dans son numéro de ce mardi 19 mars. La menace est grande pour l'agriculture de l'île italienne qui pâtit des manques d'eau et de neige sur les bassins méditerranéens. L'industrie de l'orange souffre tout particulièrement. Cet héritage islamique du 9e et 11e siècle de l'île est une richesse ancrée profondément dans l'histoire insulaire. Les fruits obtenus cette année sont nains, invendables sur le marché et leur coût de production bien trop élevé pour l'industrie de la transformation plongerait les producteurs dans un important déficit. Si certains se rabattent sur des technologies coûteuses pour pallier au manque d'eau, d'autres se voient contraints de laisser mourir leurs arbres pour espérer maintenir leur culture jusqu'à l'année suivante. Le phénomène est le même pour l'élevage bovin. Les éleveurs doivent se séparer de parfois un tiers du troupeau car il devient trop difficile de nourrir les bêtes à cause des niveaux trop bas, des herbes défourrage et de leur coût trop élevé. Et à nouveau, les éleveurs voient leurs coûts de production exploser. La sécheresse persiste, les bassins de rétention sont trop bas car ils n'ont pas été alimentés par les chutes de neige habituelles, ne contenant que 200 millions de litres au lieu de 800 millions attendus. La gestion précaire de l'île entraîne un maintien défaillant de la région et de ses ressources en eau fragilisée. Parfois, un gaspillage de ce bien précieux par les usagers et même des prélèvements illicites dans les aqueducs. Les acteurs de l'agriculture désespèrent et déclarent perdre espoir pour leur campagne bien aimée.
Et on enchaîne avec Maëlle qui nous parle du décès de Wanis et des violences qui y font suite.
Avec son article, le journal Le Parisien nous décrit l'attaque sur le commissariat de la Courneuve. Effectivement, le commissariat a été visé dimanche soir par des tirs de mortier. Des faits survenus quelques jours après le décès de Wanis, percuté par une voiture de police à Aubervilliers. Le bâtiment, situé en plein centre-ville, a été pris pour cible par plusieurs dizaines de jeunes en colère. Les faits n'ont duré qu'une quinzaine de minutes, vers 22h50. Très rapidement, des renforts sont arrivés pour disperser les assaillants et le calme est revenu, a précisé le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Et les faits n'ont fait que deux blessés légers du côté des fonctionnaires. 9 personnes ont été interpellées au total, dont 7 majeurs âgés de 18 à 21 ans. Ensuite, cependant, la famille ne veut pas que ça dérape. Le maire de la Courneuve appelle ce lundi à l'apaisement. L'élu souligne aussi le besoin de vérité et de transparence, quels que soient les fautifs. 2 enquêtes ont été ouvertes après la mort de Wanis. La première, du chef de refus d'obtempérer aggravé, a été confiée au service de traitement des accidents. Une autre enquête a été confiée à l'IGPN pour homicide et blessures involontaires à l'encontre des 3 policiers impliqués. La scène a ravivé le souvenir des émeutes urbaines de l'été dernier, partie de Nanterre, à la suite de la mort de Naël, décédé d'un tir de policier. Lors de son déplacement à la Courneuve ce lundi matin, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a annoncé le déploiement d'un très gros dispositif policier pour sécuriser la ville. On ne craint pas de nouvelles attaques, a cependant souligné le haut fonctionnaire. À droite et à l'extrême droite, les incidents ont provoqué des réactions indignées. Emmanuel Macron n'aura cessé d'affaiblir l'autorité de l'État, plongeant la France dans un chaos permanent, a ainsi critiqué sur X Marine Le Pen. A l'inverse, l'ancien candidat à l'élection présidentielle du NPA, Philippe Poutou, a salué sur X un joli feu d'artifice et a exprimé son soutien à une colère légitime. Après qu'un jeune ait encore été tué par la police. Ce serait ainsi une suite logique des révoltes de juillet 2023.
En France, toujours l'accès aux soins, toujours plus compliqué. Nora.
Aujourd'hui, le personnel médical alerte sur la dégradation du système de santé. La phrase parue dans Le Parisien ce mardi 19 mars, destinée à accueillir des malades, l'hôpital aurait lui-même besoin de soins intensifs, résonne alors comme un intense appel à l'aide. Cette crise, Arnaud Robinet la qualifie de bombe à retardement, une bombe qui bientôt explosera, d'abord avec la fermeture inquiétante de multiples lits d'hôpital. En effet, Le Parisien déclarait qu'en 2023, 7% des lits d'hôpitaux ont été fermés. L'accès aux soins apparaît d'autant plus difficile et dégradé lorsque l'on constate un temps d'attente pour prendre un rendez-vous qui ne cesse d'augmenter. Depuis 5 ans, il aurait, selon Le Parisien, quasiment doublé. Désormais, on doit compter 10 jours pour prendre rendez-vous chez le généraliste et environ 2 mois et demi pour finalement pouvoir s'entretenir avec un cardiologue. Ces phénomènes ne sont pas sans conséquences. On observe effectivement un nombre de patients s'éloignant du système de santé qui explose ces dernières années. Le personnel médical ne reste pas silencieux face à cette inquiétude grandissante. En effet, ce mardi, le collectif des infirmiers libéraux appelle à une action dans toute la France. Il prône une revalorisation de 20% des actes, un passage de 3 euros à l'indemnité forfaitaire de déplacement, ainsi qu'une meilleure reconnaissance de la pénibilité de leur profession. Il reste maintenant à voir comment notre gouvernement réagira face à ce signal d'alarme.
La santé, toujours. Je laisse la parole à Benoît. La présence du sucre dans les produits transformés a diminué. C'est ce qu'annonce Le Quotidien aujourd'hui en France.
D'après Le Quotidien aujourd'hui en France, qui publie une enquête de l'Agence de sécurité sanitaire, le sucre est présent partout dans les produits transformés, y compris les pizzas, sauces, charcuteries. Bonne nouvelle tout de même, depuis 10 ans, il y en a moins. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, ANSES, a passé en revue la liste des ingrédients de près de 40 000 produits présents sur le marché. Une première en Europe. L'étude montre que la majorité des produits contiennent au moins un ingrédient sucrant ou vecteur de goût sucré. Par exemple, un bol de chips contient l'équivalent de 8 morceaux de sucre ou encore 5 morceaux dans une seule part de pizza. L'ANSES recommande de ne pas dépasser les 100 grammes de sucre par jour, ce qui est déjà deux fois plus que ce que préconise l'Organisation mondiale de la santé. Le sucre agit comme une drogue sur le cerveau, il active la zone de récompense, décrypte la spécialiste des risques nutritionnels de l'ANSES, Irène Margaratis. On peut noter qu'une amélioration au niveau des céréales, les boissons sucrées et les thés glacés. L'État fixe des taxes proportionnelles au taux de sucre ajouté, ce qui pousse les grandes marques à réduire le sucre. Les risques du sucre sont l'addiction, rappelle Philippe Frogel, diabétologue. Je cite « Consommer trop de sucre est mauvais pour la santé, c'est un fait désormais bien documenté. La consommation abusive de sucre provoque diabète, maladies cardiovasculaires et cancer, en particulier celui du sein. »
Un peu d'histoire maintenant avec un article spécial sur les femmes collabos. Je laisse la parole à Icar.
Maintenant, un article au titre choquant écrit par Charlie Hebdo. L'égalité des sexes pour le pire. Cet article est une interview entre Charlie Hebdo et Fabien Lostek sur la collaboration des femmes lors de la Seconde Guerre mondiale. Fabien Lostek va directement annoncer que les femmes collaboratrices ne sont pas seulement des tondus sur lesquels on se venge. En effet, des actes horribles ont aussi été commis par des femmes. Il nous apprendra ensuite que 651 femmes ont été condamnées à mort par un tribunal légal, dont 46 exécutées. En ajoutant les tribunaux résistants, on arrive à plus de 120 femmes exécutées. Parmi elles, un tiers ont été condamnées pour délation, un tiers pour avoir dénoncé des résistants et des juifs, et un tiers pour collaboration policière. Cela consistait à se faire passer pour des résistants pour ensuite mieux les dénoncer. Les motivations principales étaient de régler des différends personnels comme les infidélités, recevoir un héritage en dénonçant des membres de sa famille, mais aussi de délation antisémite. Après cela, il va nous apprendre que les femmes étaient encore pires dans la torture que les hommes. Malgré tout cela, toutes les femmes seront jugées également aux hommes, voire plus sévèrement si elles se prétendaient manipulées. Un détail léger mais important qu'aucune des femmes ayant couché avec des Allemands n'a été condamnée que pour cette raison. L'article se finit en nous apprenant que le nombre de femmes condamnées depuis la libération a augmenté. Cependant, il explique ceci par le fait que durant la guerre, les hommes ont été humiliés, condamner les femmes était donc un moyen de prendre le contrôle sur leur corps et de reprendre leur virilité.
On terminera cette revue de presse avec du sport. Tout d'abord, Intissar et Chéri nous parlent des tensions autour des Jeux Olympiques.
Les JO auront lieu cette année à Paris. Cependant, ils ont deux problèmes majeurs. L'inquiétude des copropriétés et les cybermenaces.
Le journal Le Monde nous informe des tensions qui occupent la population parisienne à la venue des JO. C'est en début février qu'une lettre fut envoyée par le syndic évoquant son soutien auprès des propriétaires pour louer. Une lettre qui fit fureur auprès des copropriétaires, exaspérés par le non-respect des codes sociaux et du respect de chacun. L'enchaînement de nuisances sonores qui s'ajoutent au sentiment d'insécurité provoque alors un comportement qui finit par être irrespectueux des deux côtés. Vacances cachées pour les uns et un environnement de vie instable pour les autres. La mairie de Paris enregistre plus de 60 000 locations de type de Airbnb qui provoquent de multiples plaintes de voisins pour nuisances. Le bureau de la protection des locaux d'habitation nous informe alors que la venue des Jeux Olympiques provoque un nombre en pleine croissance, beaucoup plus de sollicitations et donc une augmentation de signalements de nuisances sonores. Poursuivons avec la jurisprudence mouvante et non respectée. Un nombre d'Airbnb font leur apparition malgré des règles interdisant leur présence. La société d'Airbnb, quant à elle, n'ignore rien de ces difficultés. Pour les Jeux Olympiques, la société d'Airbnb nous explique cela. Pour les Jeux Olympiques, nous avons conçu un guide de voyageurs responsable. Il sortira en avril ou en mai et évoquera le tri sélectif ou l'attention à accorder aux parties commises. L'importance de ne pas faire de bruit, de ne pas claquer des portes. Nous y préciserons que les parquets et les murs parisiens ne sont pas très épais.
On retrouve également, à la page 27 du Figaro du 19 mars 2024, un article concernant les cybermenaces qui pèsent sur les Jeux Olympiques et la France. C'est le dimanche 10 mars, vers minuit, que le système d'information du réseau interministériel de l'État, le RIE, a été la cible d'un volume très inhabituel d'attaques. Celles-ci furent 10 fois supérieures à ce qu'a pu connaître ce réseau de services de l'État lors de précédentes agressions de ce type. Il s'agit de pirates du groupe nommé Anonymous Sudan, dont le but est de noyer le système en les saturant de requêtes. L'attaque fut qualifiée d'une intensité inédite en termes de volume et de durée. Elle n'a cependant pas eu d'impact majeur. C'est donc un test réussi d'après Vincent Strubel, directeur général de l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. L'ANSSI a la responsabilité, en plus de ses tâches habituelles, de coordonner toute la cybersécurité des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Cette attaque n'a pas de lien avec les JO, mais illustre la pression grandissante qui l'accompagne. Vincent Strubel s'attend à ce que la menace se renforce, notamment par les activistes qui veulent faire passer des messages, mais aussi par les États qui peuvent vouloir nuire à l'image de la France. On observe des pics d'attaques à chaque fois que la France vient en aide à l'Ukraine. À ce stade, on ne voit pas encore ces attaques ciblées sur les JO, mais selon le directeur de l'ANSSI, cela viendra et se manifestera dans la période avant les Jeux Olympiques, mais également pendant. Parmi les scénarios du pire, nous pensons à ceux qui viseraient à perturber ou provoquer des mouvements de foule pendant la cérémonie d'ouverture ou tout simplement empêcher sa tenue. Ce serait une atteinte à l'image de la France. Mais pas d'inquiétude, les équipes seront renforcées pour l'occasion.
Et les résultats sportifs avec Alexane.
D'après le Dauphiné Libéré, sur la ville d'Aubenas, au niveau des boules, nous avons eu un gros week-end au boulodrome de Jean-Albert, accueillant le deuxième tour de l'Omium des boulistes de U18. Concernant le tennis, maintenant, nous pouvons voir de bons résultats avec 2 victoires et 2 défaites. Au niveau du football, pour les U20 de l'ASAF qui s'imposent 2-1 contre le FC Annonay. Au retour des vestiaires, Annonay met la pression, mais l'ASAF tient bon. Au niveau de la ville de Vals-les-Bains, pour le football, on a un résultat nul, 2-2. Le match nul ne les arrange pas. Pour Priva, on a beaucoup de médailles concernant le championnat interdépartemental au niveau de la gymnastique.
Un petit point météo.
Les beaux jours arrivent. Aujourd'hui, 20 degrés cet après-midi à Aubenas. Bonne journée.
Merci Ariane d'avoir conclu cette revue de presse avec le petit point météo du jour. Alors un exercice pas facile. Alors pour situer le contexte à nos auditeurs, ils sont arrivés à 8h30 ce matin pour préparer cette revue de presse. Ils ont épluché les journaux. Alors je vous prends un peu à froid comme ça, mais qu'est-ce que vous avez pensé de cet exercice, les jeunes ?
C'était bien, c'était intéressant.
Ouais.
C'était long.
C'était long. Le travail de préparation ou le passage en studio ?
Le travail de préparation surtout.
On vous a senti un peu stressé ? Ça va ? La gestion du stress ?
Oui.
C'est pas facile de travailler sous pression.
Oui.
On arrive ce matin à 8h, on descend à la radio, puis on découvre les gros titres, et puis hop, en une heure et demie, c'est parti, quoi. Il n'y a pas le temps de se tromper, de tout recommencer.
Merci donc à... Vous êtes 11, je crois, donc merci à tous. Vous avez bien bossé, c'était vraiment chouette. Donc moi, je vous félicite. Merci du coup d'avoir proposé ce programme sur notre radio associative en milieu scolaire. Et on enchaîne tout de suite avec Wendy Martinez.
Ils ont franchi la frontière, on leur promettait derrière le meurtre de la misère. Ils ont d'abord vu la mer, cette qualité de lumière, propre aux pays aurifères. Et forêt de conifères, border les premières sphères, tout arriver lent leurs frères, dont la peau bleue s'éclaire à la vue des nouvelles mers, des nouveaux pères de leur terre. Plus de frontières, il avait enfin trouvé le pays qui n'existe pas.